Chapitre 56. Ne me dis rien. Ananina a posé ses quelques poteries sur sa table de chevet pour les entendre chanter en s'endormant. Elle va vite trouver le sommeil. Elle n'a pas de raison d'être triste en les écoutant. Elle en sera peut-être encore bercée au petit jour. Je reste hantée par la lettre dans la poche de mon pantalon. Je l'ai jetée au feu en regardant les mots disparaître dans les flammes. Mais elle est toujours là. Je sais qu'il ne faut pas. Mais je n'arrive pas à imaginer l'homme m'attendre toute la soirée sans explication. Je ne lui dois rien, certes. Mais il pourrait prendre ce silence pour du mépris. J'en déteste l'idée. Peut-être est-il temps de parler, de lui expliquer que tout cela n'était pas raisonnable et que je vibre pour un autre homme. D'autres auraient peut-être mis l'enveloppe à la poubelle sans se soucier de rien. Je n'y arrive pas. Pas après ce peu que nous avons partagé. Ce peu est pourtant ce si fort. Il est déjà 21h et je ne sais pas quoi dire à Eric qui lit sur le canapé. J'aurais préféré qu'il ait eu envie de solitude ce soir. Voilà aussi pourquoi je dois cesser tout ça. Je m'en veux. Il ne le mérite pas. Je devrais peut-être lui en parler, pour qu'il me protège de moi-même. Mais ça lui ferait du mal. Cela me concerne et m'appartient. C'est à moi de gérer seul. Je prends au hasard un papier de l'école et je prétexte de l'emmener à Gaël. C'est si urgent que ça, tu le vois demain. Ça me fera bouger un peu. Je ne sors plus avec le chien. Je t'attends ici. Voilà, c'est parfait comme ça. Je dépose le papier, je passe par l'atelier dire à l'homme que je ne viendrai pas, et je suis là dans une demi-heure, au chaud, avec Eric. Je l'embrasse, déjà emmitouflé, et je me précipite dans le froid de février. Mes idées se bousculent, même si je suis certaine. Si j'avais voulu répondre à cette invitation, il aurait fallu mentir à tout le monde, ou mettre Gaël dans la confidence pour qu'il serve d'alibi, avec la peur au ventre d'être un jour découverte. Et que dire du problème des enfants? Prendre le risque de gâcher leur belle amitié pour ce genre de bagatelle? Je pense aux mots de Gustave. On peut toujours décider que non. Mais est-ce vraiment de la bagatelle? Mon ventre proteste. Gaël ne comprend pas pourquoi je viens lui déposer ce papier sans importance, mais il lit dans mes yeux qu'il ne vaut mieux pas chercher. Il me dit simplement, alors que je repars, « Prends soin de toi, ma belle. Tu m'inquiètes un peu en ce moment. » L'amitié, c'est parfois de respecter les silences. Moi aussi, je m'inquiète. J'ai failli tout lui dire. C'est tellement difficile de garder pour soi, sans pouvoir partager, se sentir seul face à ses propres décisions, sans encouragement, malgré la difficulté de l'épreuve. Seul dans ses choix, dans ses regrets peut-être, dans ses remords sûrement. Le plus dur reste à faire. L'heure du rendez-vous est passée depuis 20 bonnes minutes. Peut-être est-il rentré chez lui, mon absence silencieuse en guise de réponse. Se dit-il déjà que je n'en ai rien à faire de lui? S'il savait. S'il savait toutes ces pensées qui volent encore dans la forêt, cette odeur de bois et d'essence qui m'a saisi la première fois. Cette lutte entre mon ventre et ma tête. S'il savait comme il me coûte de venir pour dire non, comme il me coûte de ne pas réussir à balayer cette histoire d'un revers de main, comme des miettes sur une table, négligemment, en parlant d'autre chose. J'aperçois de la lumière à travers le carreau de son atelier. Il doit encore y être. En m'approchant, j'ai veillé à ne pas être vu. L'éclairage public est très faible dans ce morceau de rue. Je décide de ne pas frapper, d'entrer directement, puisqu'il m'a invité, et de fermer la porte rapidement, pour faire comme si je n'étais pas là, comme si tout cela n'était que du vent, du temps qui passe et qui s'efface instantanément. Il ponce quelque chose avec du papier de verre, au fond de la pièce, assis devant une table couverte de copeaux, d'outils, de morceaux de bois. L'odeur immédiatement. J'ai le temps d'apercevoir de nombreuses pièces, façonnées, travaillées, taillées, creusées, poncées. C'est troublant. J'y retrouve un peu l'ambiance de chez moi, Il se lève sans un mot et vient à ma hauteur. Souviens-toi, Valentine, de pourquoi tu es là. Je ne peux... Il a couvert ma bouche de sa paume rugueuse et chaude pour laisser les yeux se retrouver. Je ressens instantanément le désir qui jaillit du fond de moi. L'effet est immédiat, mais je ne peux pas. Comme ce n'est plus ma bouche, ce sont mes yeux qui parlent. Des pleurs soudains, aussi violents que mes envies, coulent sur sa main toujours plaquée sur moi. Et là, son regard change. Il n'est plus en puissance. Il est en retenue. Il ne cherche pas à me harponner. Je crois qu'il me libère. J'y vois la déception et l'envie contrariée. Le renoncement. La raison qui gagne. Sa main qui me bâillonne tremble de plus en plus. Il la descend doucement, frôlant à peine mon sein. Je crois même qu'il ne m'a pas touchée, mais j'ai senti la force de son intention, la vibration. Il poursuit jusqu'à atteindre ma main et l'ouvre vers le haut. Il y dépose un objet en bois, rond, doux, presque charnel, et referme mes doigts dessus. De son autre main, libérée de la sphère, il saisit mes cheveux à la base de la nuque. Une mèche épaisse. Il serre. Il tremble et attire mon front dans le creux de son épaule. J'inspire profondément. C'est peut-être la dernière fois que je sens son odeur d'aussi près, aussi fort. Puis il s'éloigne, va ouvrir sa porte et me laisse sortir en me regardant une dernière fois. C'est son premier sourire. Et il est triste à mourir. J'arrive chez moi, hors d'haleine d'avoir couru, d'avoir pleuré, d'avoir désiré et renoncé. Je file à l'atelier. J'ai besoin de retrouver l'odeur du bois. Je n'ai pas desserré l'objet qui se trouve dans ma main. Je m'assois sur le tabouret au milieu de la pièce et j'écarte les doigts. Dans la petite sphère ronde rayée de stries courbées, un dessin a été taillé. Un arbre. Celui contre lequel... Je la glisse dans ma poche et je saisis de la terre une grosse boule que je malaxe pour chasser l'air. Je la mouille de mes larmes, la pièce sera salée. Peut-être que des reflets particuliers apparaîtront à la cuisson. Je la jette sur le tour avec rage, comme si je voulais qu'elle emporte cette colère qui m'a envahie, plus forte que moi. Colère de l'abandon, de la résignation. Et ça fait mal au ventre, et ça m'arrache les tripes. Ça fait mal dans la tête, dans le cœur, dans les jambes. Un mal à en crier. Je pleure bruyamment, en essayant en vain de centrer cette argile. Je suis tellement éparpillée que mes mains ne peuvent pas. J'essaie, je recommence, je sanglote, je gémis. Poussée de la main droite, écrasée de la gauche. La pièce continue à vibrer, preuve qu'elle n'est pas centrée. Je suis cette boule d'argile qui ne veut rien savoir, qui part dans tous les sens, qui frémit et qui tourne. Eric entre. Je n'arrive pas à m'arrêter, ni de tourner, ni de pleurer. C'est lui qui coupe le moteur et me prend dans ses bras pour absorber un peu l'énergie qui déborde, pour me calmer comme il peut. Et je vais lui dire quoi? Comment me justifier? Il me donne la réponse. Surtout, ne me dis rien.